Tourner ensemble dans la parole de Dieu. On va tourner dans deux passages ce matin. C'est pour ça qu'on a deux lectrices assorties ce matin. Il y a juste le gars des vues qui peut organiser ça. Mon épouse est celle qui passe parfois pour ma fille ou ma sœur. À plusieurs reprises, on a demandé à Élie si on était parents. Vont nous lire dans Matthieu 22. Alors, je vous demande de tourner d'une part dans Matthieu 22 et de tourner aussi dans le psaume 110. Vous êtes dans une assemblée évangélique et on aime plonger les regards dans la parole de Dieu. Alors, si vous n'avez pas une Bible, simplement levez la main. Si vous n'êtes pas familier, vous dites « Oui, mais je ne saurais pas où tourner », les placeurs dont Bertrand qui est derrière vont vous apporter une Bible tournée dans Matthieu 22 et dans le psaume 110. Vous allez voir, ils sont pas mal efficaces et on va se promener dans ces deux passages-là. Alors, si vous n'avez pas les Saintes Écritures avec vous, levez la main s'il vous plaît, les plaçants vont se faire un plaisir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'une Bible? Ça va être tourné pour vous dans Matthieu 22 et dans le psaume 110. Oui, une ici à l'avant s'il te plaît Bertrand, une autre ici à l'avant. Matthieu 22, nous allons lire les versets 41 à 46. Alors mon épouse va nous conduire dans ces versets et ensuite Élie Rondeau va nous conduire dans le psaume 110. Matthieu 22, versets 41 à 46. Et nous allons écouter la parole de Dieu. Voulez-vous?
Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea en disant, « Que pensez-vous du Christ? De qui est-il le Fils? » Ils lui répondirent, « De David. » Et Jésus leur dit, « Comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur lorsqu'il dit, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Nul ne put lui répondre un mot. Et depuis ce jour, personne n'osa plus lui proposer de questions.
Alors on va tourner ensemble dans le psaume 110, qui est le passage auquel Jésus fait allusion ici et qu'il cite. Et encore une fois, nous allons écouter la parole de Dieu.
De David, psaume. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis tes marchepieds. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance, domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée avec des ornements sacrés du sein de l'aurore. Ta jeunesse vient à toi comme une rosée. L'Éternel l'a juré, il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisédek. Le Seigneur, à ta droite, brise des rois au jour de sa colère. Il exerce la justice parmi les nations. Tout est plein de cadavres. Il brise les têtes sur toute l'étendue du pays. Il boit au torrent pendant la marche. C'est pourquoi il relève la tête.
Et on va se courber ensemble dans un mot de prière. Seigneur Jésus, nous l'avons chanté ce matin. Tu es venu accomplir toutes choses parfaitement. Mais Seigneur, à celui qui ne te connaît pas, ton Père, notre Dieu, le Créateur des cieux et de la terre, demeure un mystère. Et les Saintes Écritures demeurent mystérieuses à celui qui n'a pas compris, Christ, la clé pour comprendre ta parole. Seigneur Jésus, je te demande de venir faire une œuvre spéciale ce matin par ton Esprit Saint. Ces choses avec lesquelles tu as confronté ces spécialistes de la loi étaient des choses difficiles à comprendre, des choses qui nous dépassent. Des vérités mystérieuses pour nous, car elles parlent de Dieu, de la Sainte Trinité, de celui que nous n'avons pas encore vu de nos yeux. Mais elles parlent aussi d'éternité, d'espérance. Elles parlent du salut que tu es venu accorder aux hommes. Elles parlent de choses essentielles pour notre éternité pour notre vie, pour notre bonheur. Dans ta grâce, Seigneur, je te demande de venir ouvrir notre intelligence ce matin. Sois avec moi, Seigneur, afin que je puisse enseigner ta parole avec puissance, avec clarté, avec grâce, Seigneur. Père, il y a là tout ce qui est nécessaire de savoir sur la vie. Accorde-nous de saisir ces paroles. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Je suis très conscient que si vous n'êtes pas familier avec les Saintes Écritures, lorsque vous avez entendu et lorsqu'on a lu le psaume 110, vous avez pu vous dire, mais qu'est-ce que c'est ça, ce passage-là? De quoi ça parle? C'est un texte étrange à celui qui n'est pas familier avec la notion de prophétie, celui qui ne connaît pas les Saintes Écritures. Et par la grâce de Dieu, on va essayer de jeter un peu de lumière sur ce passage. Nous sommes en train d'exposer l'Évangile selon Matthieu, selon l'habitude que nous avons dans cette Église, de cheminer à travers un livre de la Bible généralement et d'exposer partie par partie, afin de voir ce que l'auteur est en train de nous faire connaître dans son ensemble. Maintenant, depuis quelques temps, depuis quelques chapitres, nous en sommes à la dernière semaine de la vie de Jésus sur terre avant son arrestation. Nous en sommes à quelques jours de son arrestation et de sa crucifixion. En fait, lorsqu'on arrive dans le passage ici de Matthieu 22, Jésus va être arrêté dans 2 jours à peu près. Pour être agressé, battu, crucifié et mourir sur la croix. C'est important d'avoir ceci à l'esprit pour voir en même temps cette attitude tellement conquérante et incroyablement confiante qu'il y a en Jésus. Jésus, en allant citer ces passages, est soit un illustre fou, soit quelqu'un qui comprend des choses que nous ne comprenons pas, que les hommes de cette époque-là ne comprenaient pas. Jésus, en les conduisant dans ces passages, est en train de préparer son arrestation. Par ces mêmes paroles, comme on va le voir tout à l'heure, il va signer son arrêt de mort. Est-ce que Jésus savait des choses que nous ne savons pas sans lui et que les docteurs de la loi de l'époque ne savaient pas? Au cours du chapitre précédent, on a traité toutes sortes de questions vraiment importantes de la vie. On a vu ensemble, on a parlé de notre relation à l'autorité. Quelle sorte de rapport nous avons avec les autorités, toutes les autorités que Dieu place dans notre vie? C'est une question importante, n'est-ce pas? Avec cette déclaration de Jésus, rendez à César ce qui est à César et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Sujet extrêmement important. Nous sommes constamment confrontés avec des autorités dans nos vies. Quelle attitude devons-nous avoir? Ensuite de ça, on a parlé d'éternité, de résurrection. Ce n'est pas un mince sujet. Qu'est-ce qui nous attend après la mort? Si tous les hommes le savaient, est-ce qu'ils se comporteraient de la même manière? C'est un sujet important. On a pu rêver un petit peu de ce qui nous attend de l'autre côté. Un sujet très important. Ensuite de ça, on a parlé des deux plus grandes motivations dans la vie d'un enfant de Dieu. Les deux plus grands commandements. Si ce sont les plus grands commandements, c'est ce qu'il y a de plus important, non? Comment on doit aimer Dieu en toutes choses, toujours être motivé par notre amour pour Dieu, aimer notre prochain constamment, être motivé par notre amour pour notre prochain, pour les gens autour de nous, même les fatigants dans nos vies. On doit les aimer profondément. Ce sont tous des sujets importants, d'accord? Mais alors qu'on arrive au verset 41 à 46, Jésus a décidé qu'il arrêtait de se faire poser des questions. Jésus a décidé que c'était lui maintenant qui posait les questions. Il va poser une seule question, en fait deux, dans ce passage, et plus personne n'osera lui poser de questions. Parce qu'après avoir traité tous ces sujets qui sont importants, très importants, Jésus décide de ramener la question à la seule qui soit vraiment importante. La plus importante question que vous aurez à vous poser dans votre vie, la seule qui soit vraiment importante pour toute votre vie. La question que Jésus va leur poser, c'est une colle pour eux. D'accord? Ils vont rester bouche bée, ils vont répondre à la première, mais après ça, devant le mystère qu'il y a dans les textes, ils vont rester complètement bouche bée, ils ne sauront plus quoi dire. Et lorsque nous lisons cela, Si vous êtes familier avec le Nouveau Testament, vous avez déjà lu le Nouveau Testament au complet, vous comprenez le sens de la venue de Jésus-Christ, vous comprenez ces choses. Il n'y a plus beaucoup de mystères là. Ce sont des choses qui sont plus simples à comprendre parce que nous vivons après l'arrestation, après la crucifixion, après la résurrection de Jésus, après que le Nouveau Testament a été écrit. Et les apôtres nous aident à comprendre ces choses que Jésus évoque ici. Alors, dans un sens, pour plusieurs d'entre nous ce matin, il y a une tentation qui est là. De dire, oui, mais qu'est-ce que ça change dans ma vie d'entendre ceci ce matin, puisque je comprends déjà ces choses? Ma question pour vous, c'est, est-ce que vous êtes vraiment prêt à vivre à la lumière de ce que Jésus-Christ révèle sur sa personne dans ce passage? Dans ces deux passages. Jésus-Christ ouvre une fenêtre qui nous permet de mesurer un peu plus la grandeur de sa personne, de ce qu'il a accompli, de ce qu'il est. Est-ce que vous êtes prêt à vivre à la lumière de ce qu'il nous révèle sur sa personne? Dans cette simple révélation, il y a des promesses infinies d'espérance pour nous. Pour faire face à tous les obstacles de la vie, à celui qui est prêt à vivre à la lumière de ses vérités. Est-ce que vous êtes prêt à entrer, à croire, à adhérer entièrement à ce que Jésus-Christ révèle sur sa vie? Parce que Jésus-Christ, dans ses passages, révèle la grandeur de sa personne. Et voyez-vous, Jésus-Christ est notre espoir, il est notre seul espoir. Saisir sa grandeur, c'est vivre autrement, chaque jour de nos vies. Saisir la grandeur de Christ, c'est aller au travail autrement, c'est vivre mon couple autrement, c'est vivre ma relation avec mes enfants autrement, c'est vivre mon rapport à l'argent autrement, c'est faire face aux maladies autrement, c'est faire face aux fatigues de la vie autrement, c'est vivre un tremblement de terre autrement, saisir la grandeur de Christ. Est-ce que vous êtes prêt à entrer, à adhérer entièrement à ce que Christ révèle sur sa personne dans ce passage? Ce que Jésus fait avec les spécialistes de la Bible ici, c'est qu'il les ramène à la seule question vraiment importante. Les autorités, le gouvernement, la résurrection, même les deux plus grands commandements sont des sujets très importants, c'est vrai. Mais il y a une seule question vraiment importante dans ta vie. Qui est le Messie? Qui est le Sauveur des hommes? Non seulement Jésus-Christ, mais qui est-il? Est-ce que tu as saisi la grandeur de Christ si tu as compris que Jésus était le Messie? Et quelle que soit la situation que tu es en train de vivre, que ce soit un couple qui est difficile, que ce soit la santé qui ne va pas, que ce soit de la fatigue, que ce soit les enfants qui sont difficiles à aimer, à patienter, l'atmosphère au bureau qui est pourrie, je te l'assure. Aussi éloigné que cette question sur le Messie puisse sembler, ça demeure la question la plus importante dans ta vie. Quelle que soit la difficulté que tu es en train d'affronter actuellement. Et comprendre et saisir la grandeur de Christ, c'est commencer à répondre à toutes les autres questions de ta vie. Saisir qui est Jésus-Christ est le chemin par lequel nous traversons tous les obstacles de la vie. Sereinement, par la foi, par sa grâce. Encore faut-il saisir vraiment qui est Christ dans toute sa majesté, dans toute sa gloire. Et je sais, vous allez avoir la tentation de dire, Yannick, j'aimerais ça que tu sois pratique ce matin. Donne-moi un truc. La semaine dernière, c'était pratique. Tu nous as dit, aime les fatigants dans ta vie. Sois concret. Donne-moi un truc pour être heureux. Comment je fais avec mon patron demain, là, tu sais, qui est toujours sur mon dos? J'aimerais ça avoir un truc concret, quelque chose de pratique. Saisir Christ est infiniment pratique dans ma vie. Parce que cela va orienter toutes mes réactions, toutes mes attitudes, va orienter le regard que je pose sur mon quotidien, sur ma vie et sur l'éternité. C'est la question la plus importante à laquelle vous allez pouvoir répondre. Alors, revenons au passage. Jésus formule la question ainsi. Il leur dit, « Que pensez-vous du Christ? De qui est-il le Fils? » Et les spécialistes lui répondent avec quelque chose qui était évident pour tous les Juifs de l'époque. La majorité des gens admettaient depuis longtemps que lorsque le Messie viendrait, le Sauveur des hommes, il descendrait de la lignée de David. Ce serait un descendant, un fils de David, d'accord? Alors, il donne la réponse la plus évidente. David avait été un grand roi en Israël, un homme selon le cœur de Dieu, un homme unique à bien des égards. Et Dieu lui avait fait des promesses assez extraordinaires, dont la promesse que de sa descendance viendrait un roi unique dont le trône subsisterait à jamais. Dieu avait donné des promesses à David. On ne pouvait pas imaginer comment elles se réaliseraient. Les hommes vivent et meurent. Mais Dieu avait promis qu'un descendant viendrait dont le trône subsisterait à jamais. Il avait promis cela à David. Alors, au moment de la venue de Jésus-Christ, cela fait des siècles que les Juifs attendent ce Messie, ce roi sauveur qui viendra régner et établir un règne sans fin. Parfois, on donnait comme titre au Messie qu'on attendait le titre de fils de David. Tout le monde savait cela. On attendait celui qu'on appellerait le fils de David. Et ceux qui sont avec nous depuis un bout de temps dans Matthieu, vous vous rappellerez qu'à certaines occasions, les gens spontanément se sont écriés en parlant à Jésus, « Fils de David! » Pensez à l'entrée triomphale lorsque Jésus est entré dans Jérusalem. Spontanément, la foule s'est mise à crier, « Hosanna au fils de David! » Et lorsque Jésus s'est rendu dans le temple, les enfants étaient encore en train de crier, « Fils de David! » Les spécialistes de la loi, les pharisiens, comprenaient que la foule spontanément était en train de dire « Ne serait-il pas le Messie, le fils de David que nous attendons? » Et Jésus ne bronche pas. Jésus ne fait rien pour les arrêter jamais. Alors ça choque les spécialistes de la loi. Ils comprennent très bien que Jésus est en train d'insinuer « C'est moi le fils de David. » C'est moi le fils de la promesse. C'est en moi que vont s'accomplir toutes les promesses données à David. C'est en moi que Dieu va venir sauver son peuple. Les pharisiens saisissent cela et ils en veulent à Jésus car ils ne cadrent pas, ils n'entrent pas dans ce qu'ils attendent. Les spécialistes de la Bible répondent, il est le descendant de David, il est le fils de David et ils ont raison. Ce que Jésus va faire ici, c'est que Jésus va leur montrer qu'ils ne comprennent que la moitié de son identité. Ils ont à moitié raison. Ils ont raison, mais ils n'ont pas compris qui est Jésus-Christ. C'est ainsi avec Christ. Il n'y a pas de réconciliation avec Dieu, il n'y a pas de salut, il n'y a pas de paix avec Dieu tant que tu n'as pas saisi entièrement qui est Jésus-Christ. Il ne suffit pas de dire « c'était le sauveur des Juifs ». Il ne suffit pas de dire « c'était peut-être même un prophète ». Il ne suffit pas de dire « c'était un grand sage ». Tout cela te donne seulement une partie de son identité. Il faut encore saisir qui est Jésus-Christ. Qui est le Messie? Qui est ce sauveur des hommes? Ce n'est que la moitié de son identité. Est-ce que le sauveur des hommes, le Messie tant attendu, est un simple homme? Voyez-vous, c'est le descendant de David, mais est-ce qu'il n'est que cela? Est-ce qu'il n'est que l'arrière-arrière-arrière petit-fils de David? Ou est-ce qu'il est plus que cela? Et c'est ça que Jésus est en train de faire. Et il est en train de les diriger dans un passage pour essayer d'ouvrir leurs yeux, les amener à saisir que Jésus-Christ est beaucoup plus que cela. Maintenant, je veux juste vous rappeler, l'évangile de Matthieu commence sur généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Alors, Matthieu reconnaît, c'est clair, si Jésus est le Messie, il faut qu'il soit le descendant de David. Et ensuite, Matthieu va développer toute la généalogie jusqu'à Joseph. Il va se rendre jusque-là, d'accord? Maintenant, Jésus-Christ est probablement plus que cela. probablement beaucoup plus que cela. Et ce que Jésus va faire, c'est qu'il va les conduire dans un passage de l'Ancien Testament, dans le psaume 110, où il veut leur révéler, il veut leur manifester sa personne, il veut les aider à saisir qui il est. Le psaume 110, c'est un psaume qui a été écrit par le roi David lui-même. C'est très important de comprendre cela, parce que le mystère se situe là, dans le fait que ce psaume vient de David, que David va voir des choses. Il y a quelque chose qui cloche dans ce que David va dire ici. Alors, le psaume 110 commence par « Psaume de David ». Avant d'aller plus loin, je dois vous mentionner que David n'était pas seulement un grand roi, il était un prophète. Vous ne pouvez pas comprendre le psaume 110 si vous ne savez pas que dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu choisissait un roi, l'Esprit de Dieu venait sur ce roi et il était donné par moment à ce roi de jouer le rôle d'un prophète. L'Esprit de Dieu se saisissait du roi et il prononçait des prophéties, d'accord? Une prophétie, c'est un moment où Dieu intervient dans la vie d'un individu et lui fait connaître des choses qu'il ne pourrait connaître sans une révélation divine. Et vous ne pourrez pas comprendre le psaume 110 si vous ne réalisez pas que David ici, même s'il ne saisissait pas tout ce qu'il disait, est en train de prononcer une prophétie. C'est comme si Dieu ouvrait une fenêtre sur le ciel. Et tout d'un coup, David entre dans le conseil de Dieu et assiste à une discussion au sein du conseil de Dieu. En quelque sorte, c'est ça qui se passe dans le psaume 110. Alors, David parle comme un prophète ici qui a été saisi par l'Esprit de Dieu. C'est ce que Jésus prend le temps de mentionner dans Matthieu 22. Animé par l'Esprit de Dieu, David commence à parler de choses qu'il ne saisissait probablement pas entièrement lui-même. Jésus, en s'appuyant sur ce passage, pose une question aux spécialistes de la Bible pour leur ouvrir les yeux. Il veut leur faire découvrir la grandeur du Messie, sa propre grandeur. Et voici la question qu'il leur pose. Il leur dit, « Si le Messie, si le Sauveur est le descendant du roi David, comment se fait-il que David l'appelle son Seigneur dans le psaume 110? » Et là, Jésus nous amène à découvrir un passage de l'Ancien Testament qui a été fondateur pour tout le Nouveau Testament. Le psaume 110 est le passage de l'Ancien Testament le plus cité dans le Nouveau Testament. Pierre va le citer lorsqu'il va expliquer qui est Jésus. La lettre aux Hébreux va le citer à plusieurs reprises. C'est un passage qui nous ouvre les yeux sur la personne de Jésus-Christ, du Messie, du Sauveur. Alors, tournez avec moi dans le psaume 110, s'il vous plaît. Psaume 110, verset 1. Psaume de David, parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite. En d'autres mots, ce que David dit ici, d'accord, c'est un psaume de David, c'est lui qui prend la parole. David se met à parler et il dit, parole de Yahvé, parole de Dieu à mon Seigneur. Parole de Dieu à mon Seigneur. Pour vous décrire la scène, vous avez le roi David qui est le souverain à cette époque-là. D'accord? Il n'y a personne au-dessus du roi David. La plus haute autorité sur terre, c'est le roi. Alors, vous avez le roi qui dit, « Voici ce que Dieu y avait dit à mon Seigneur, à moi. » Le hic et ce qu'il y a d'étrange dans le passage ici, et ce sur quoi Jésus veut attirer notre attention, c'est qu'il n'y a personne de supérieur au roi. On est dans une monarchie ici. On est dans une monarchie et le roi est la plus haute autorité sur terre. Après le roi, c'est Dieu. David n'appelait personne, aucun homme sur terre, mon Seigneur. Vous comprenez que lorsque le roi commence à appeler un homme mon Seigneur, c'est qu'il n'est plus roi. Peut-être un roi vaincu. Mais David ne pliait le genou devant aucun homme. Il est le roi, la plus haute autorité qu'il y a sur la terre. Il y a le roi, puis il y a Dieu, et ce roi s'adresse à quelqu'un et il lui dit, « Celui-ci est mon Seigneur. » qui est ce personnage que le roi David appelle son Seigneur et à qui Dieu dit « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Voyez-vous, ce passage est un passage prophétique. Et ce qui se passe ici, c'est que David a une fenêtre qui s'ouvre. David assiste au conseil de la Sainte Trinité. C'est comme si David était là et était emporté dans une vision et que tout d'un coup, il assiste au conseil de Dieu. Et il voit pendant un instant Dieu le Père s'adresser à son Fils. Ces choses sont plus faciles à comprendre pour nous parce que nous vivons après le Nouveau Testament. David ne pouvait pas comprendre ces choses-là. Mais pendant un instant, David a une fenêtre qui s'ouvre sur l'éternité et il assiste au conseil de la Sainte Trinité. Il voit Dieu le Père s'adresser à son Fils et il lui dit « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » C'est ce que Matthieu explique au début de son évangile. Le Messie qui devait venir allait être le descendant de David, donc un homme, mais il allait être aussi plus qu'un homme. Le roi David n'aurait jamais plié les genoux devant un autre homme. Qui est celui qui est plus grand que David? Il y a Dieu, bien sûr, mais qui d'autre? Et Matthieu, au début de son évangile, commence en nous disant que Jésus est le descendant de David, qu'il est donc un homme, un fils d'homme. Et tout de suite après, il nous dit que Jésus va naître d'une vierge conçue par l'Esprit Saint. Qu'il est donc aussi descendant de Dieu, fils de Dieu. Il est donné à David d'avoir une vision où il voit que le Messie qui va venir, celui qui va être le Sauveur, celui qui va régner sur le trône de David éternellement, est plus qu'un homme. Qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est assis à la droite de Dieu. Et c'est ce que Matthieu décrit au début de son évangile en nous disant « Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils de Dieu. Fils de David, fils de Dieu. » Maintenant, ce qui m'intéresse ce matin, parce que je sais que pour la majorité d'entre vous, c'est quelque chose qui était déjà clair. Vous êtes familier avec l'idée de la Sainte Trinité. Vous êtes familier avec l'idée qu'il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ce qui m'intéresse surtout de voir avec vous ce matin, c'est ce que Dieu dit au Messie dans le psaume 110. Écoutez bien ce qu'il dit. Restez avec moi dans le psaume 110. « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » C'est quand même quelque chose que Jésus cite ce passage alors qu'il est devant ceux qui sont ses adversaires. Non? Est-ce que Jésus n'est pas en train de leur lancer un message? Voulez-vous vraiment être mes adversaires? Si Dieu a dit ça au Messie, si je suis le Messie, voulez-vous vraiment être mes adversaires? Littéralement, le terme qu'il y a là pour marchepied, vous savez c'est quoi? Si vous êtes familier avec l'Ancien Testament, vous savez quand Josué a vaincu plusieurs rois, qu'il a rassemblé ses rois, qu'il les a couchés, je ne vous dirai pas où est-ce qu'il a mis son pied, et que ces hommes ont été mis à mort parce qu'ils s'étaient opposés à Israël. Le terme pour le pied qui est déposé là, c'est un marchepied. Psaume 110, « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée. Voyez-vous, ce passage est un passage de guerre. C'est un texte de guerre, littéralement. Le psaume 110 est un psaume d'espérance. C'est un texte guerrier. C'est un texte extrêmement dur où Dieu donne une promesse à son Messie, au Sauveur qu'il envoie, de lui donner une entière victoire sur ses ennemis. Au verset 5, il dit « Le Seigneur brise des rois au jour de sa colère. Il exerce la justice parmi les nations. Tout est plein de cadavres. » Dieu promet à son Messie un règne éternel, une victoire absolue. Et on pourrait étudier le psaume 110 beaucoup plus largement parce qu'il est cité, comme je l'ai mentionné à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament, dans la lettre aux Hébreux. Lisez la lettre aux Hébreux cette semaine puis allez voir comment l'auteur se sert du psaume 110. C'est magnifique ce qu'on découvre là sur la personne de Jésus-Christ. Maintenant, moi, je veux attirer votre attention ce matin sur l'aspect guerrier de cette prophétie, sur la victoire que Dieu promet à son Messie. Dieu lui dit, « Je ferai de tes ennemis ton marchepied. Littéralement, je les écraserai sous tes pieds. » Et Dieu donne sa parole qu'il va lui accorder une victoire absolue sur tous ses ennemis. Dieu promet de lui donner la victoire sur plusieurs ennemis, sur tous ses ennemis. Alors, revenez avec moi dans Matthieu 22, s'il vous plaît. Nous sommes 2 jours avant son arrestation. Jésus cite ce passage. Lorsque Jésus cite ce psaume devant les pharisiens, les autorités juives, il se prépare à se faire arrêter. Dans 2 jours, il va être arrêté, battu, crucifié. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'une victoire à ce point-ci? Est-ce que vous voyez un Messie glorieux qui s'avance avec son armée, qui s'en vient vaincre, qui est terrifiant? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que tout ceci va être un échec en définitive? Si Jésus est le Messie, le roi des Juifs, est-ce qu'il n'est pas assez puissant pour se libérer et ne pas se faire clouer au bois? Si Dieu lui promet de lui donner la victoire sur ses ennemis, est-ce qu'il n'aurait pas pu tout simplement le libérer de ses ennemis? Alors, on avance 2 jours plus tard. Tournez avec moi dans Matthieu 26. 2 jours plus tard, Matthieu 26, verset 62. Jésus a été arrêté. C'est fait. Tous ses disciples l'ont abandonné. Il comparait devant le Sanhédrin, la plus haute institution religieuse juive, et le souverain sacrificateur lui tend des pièges. Il veut l'accuser. Il cherche des moyens de l'accuser. Écoutez bien ce que Jésus va dire ici dans Matthieu 26, verset 62 et suivant. Le souverain sacrificateur se leva et lui dit, « Ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? » Jésus garda le silence et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, « Je t'adjure devant le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Parce qu'ils avaient bien compris que Jésus insinuait cela constamment. Ils veulent une déclaration, Jésus va leur en donner toute une. Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Encore une allusion à ce passage. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant, « Il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous venez d'entendre son blasphème. Que vous en semble? » Est-ce que vous réalisez ce que Jésus vient juste de faire ici devant eux? Jésus vient de signer son arrêt de mort. Soit il a raison, soit il a tort. Mais pour eux, il a tort et il vient de prononcer un blasphème. Il vient de déclarer qu'il est le Messie, qu'il va être assis à la droite de Dieu comme personne ne l'a jamais été et qu'il reviendra sur une nuée. Jésus vient de signer son arrêt de mort littéralement parce qu'il déclarait ici être le Messie et tout un Messie. À partir de cet instant, ils vont user de violence envers lui, ils vont l'agresser physiquement, le frapper, lui cracher au visage. Et pourtant, Jésus voit ceci comme une victoire. Jésus provoque sa mort et il voit ceci comme une victoire. De quelle victoire peut-il s'agir? De quelle sorte de victoire on peut parler si tu n'es même pas capable de défendre ta personne physiquement? Tout un roi, tout un Messie. De quelle sorte de victoire on parle? Jésus-Christ s'avance, provoque littéralement chacune des étapes où il va être arrêté et il dit, vous allez voir, je vais entrer dans la gloire. Je vais être assis à la droite de Dieu. Je reviendrai sur une nuée. Jésus s'avance vers sa mort et il est glorieux, convaincu qu'il s'avance vers la victoire. Quelle victoire Christ est-il allé gagner à la croix? Toutes les victoires. Jésus-Christ est allé gagner à la croix toutes les victoires, ou presque. À la croix, il a vaincu la mort. À la croix, il a vaincu le péché. À la croix, il a vaincu le diable, l'ennemi de nos âmes. À la croix, il a vaincu le monde. À la croix, il a acquis toutes les victoires, ou presque. Tout ce que nous attendons, c'est son retour maintenant. Nous attendons que toute chose soit consommée et que nous puissions le voir dans toute sa gloire. Écoutez ce que l'apôtre Pierre déclare dans le livre des Actes, chapitre 5, versets 30 et 32. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses. Pierre va déclarer cela quelques jours après la résurrection de Jésus-Christ, d'accord? Voici ce que Paul dit dans Philippiens 2, versets 5 à 11. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. » Écoutez bien ceci. Il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Lorsque David a eu cette vision avec le psaume 110, il a vu la victoire de Christ. Il a vu le Fils de Dieu assis à la droite de Dieu. Étienne va le voir en vision au moment où il est lapidé. Les apôtres ont compris ces choses. Et aujourd'hui, la parole de Dieu nous dit, Christ est assis à la droite de Dieu. Il est Seigneur. Alors, lorsque Jésus se présente devant les pharisiens et qu'il leur pose cette question, c'est une question gracieuse qu'il leur apporte. Le message que Jésus est en train de leur livrer, il est en train de leur dire, vous attendez un sauveur, c'est bon. Descendant de David, c'est bon. Il y a quelque chose que vous n'avez pas compris sur ce sauveur. La première fois qu'il viendra, il viendra gracieusement. La seconde fois, il règnera. Jésus-Christ, en allant à la croix, a vaincu la mort. Il a vaincu le péché, il a vaincu le diable, l'ennemi de nos âmes, il a vaincu le monde. À cause de cette victoire, Christ, Dieu l'a honoré, l'a élevé au-dessus de tout nom. Il règne actuellement, assis à la droite de Dieu. Maintenant, rappelez-vous de cette dernière parole qu'il a prononcée devant le Sanhédrin. Il a dit, « Vous verrez le Fils de l'homme venir sur une nuée. » Lorsque j'ai dit tout à l'heure que Christ avait gagné toutes les victoires à la croix, c'est que nous attendons son retour. Et la parole de Dieu nous dit qu'au moment de son retour, toute la suite du psaume 110 va s'accomplir. Allez lire la fin du livre de l'Apocalypse et vous allez voir un sauveur qui revient non gracieusement, mais comme un juge. Voyez-vous, Dieu ne niaise pas avec le péché. Et si Dieu a donné la victoire à son Messie en l'envoyant mourir sur la croix pour le pardon de nos péchés, c'est que Dieu ne niaise pas avec les péchés. Il ne niaise pas avec mes péchés, il ne niaise pas avec les vôtres. Et lorsque Jésus se tient devant ces pharisiens et leur dit, réalisez-vous qui est le Messie? Il les invite à plier le genou maintenant, avant qu'il revienne. Maintenant, David, lorsqu'il a eu cette vision extraordinaire, David a appelé le Messie son Seigneur. Il a plié le genou devant Jésus-Christ. Les Écritures nous disent que c'est le temps aujourd'hui de plier les genoux devant Jésus-Christ. Vous pouvez voir en Jésus, celui qui vous offre le pardon de vos péchés, pour comprendre qui est Christ, vous devez voir en Jésus celui qui revient bientôt pour juger le monde. Dieu, dans sa grâce, nous a offert le pardon en Jésus-Christ. Toute la victoire est acquise. Le pardon pour tous nos péchés, pour toutes nos fautes. Mais il faut embrasser le Fils, plier le genou devant Jésus-Christ avant qu'il revienne. Tous ceux et celles qui quittent cette vie sans avoir embrassé le Fils ne verront plus jamais Jésus-Christ comme leur sauveur, mais comme leur juge, celui qui va les condamner, comme leur ennemi. Dans le psaume 110, on a deux options. Vous entrez dans l'armée de Christ ou vous êtes le marchepied de Christ. Je sais que ces paroles-là sont dures. C'est l'Évangile que je vous prêche ce matin. Ça, c'est l'Évangile. Crois en Jésus parce qu'il t'offre la grâce du pardon. Rejette-le, tu le rencontreras comme ton juge. Et Dieu l'a élevé et lui a donné tout pouvoir. Son armée céleste l'accompagnera. Aujourd'hui, tu peux plier le genou devant Christ, accepter sa grâce et son pardon, ou tu peux te préparer à faire face à ton juge. Et si vous n'êtes pas familier avec la parole de Dieu, vous dites, mais qui est ce Dieu que tu nous présentes, Yannick? Un Dieu tellement sévère, tellement dur. Mais vous n'avez pas compris la croix. Dieu ne niaise pas avec le péché. La preuve, c'est que le Fils de Dieu a été prêt à mourir sur la croix pour nos péchés. C'est ça l'Évangile. Puissiez-vous plier le genou aujourd'hui devant Jésus-Christ et entrer dans son armée, dans sa gloire, pour votre plus grand bonheur. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, David a eu une vision. Il t'a vu assis à la droite de Dieu dans toute ta gloire et ta majesté. À la croix, tu savais que tu allais vaincre le monde, vaincre le péché, vaincre l'ennemi de nos âmes. Et ton Père t'a élevé à sa droite, au-dessus de tout nom, afin que tout genou fléchisse au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, j'ai saisi ton sacrifice. J'ai compris la grâce qu'il y a à la croix pour mon salut, Seigneur. J'ai embrassé le Fils. Parce que je savais, Seigneur, que j'étais ennemi de Dieu par mon péché, ennemi de Dieu par mon iniquité, par mes mensonges, par mes fourberies, par tout ce qui me fait tellement honte, Seigneur. Et j'ai embrassé le Fils. J'ai cru dans ton sacrifice. Tu as fait de moi ton enfant. Et aujourd'hui, Seigneur, j'ai ce privilège de plier le genou devant toi, de vivre comme un enfant de Dieu, de servir celui qui est mon Seigneur, qui règne. Tes paroles sont pour moi, Seigneur Jésus, une source d'inspiration. Quand ta bouche s'ouvre, c'est un commandement auquel, Seigneur, je me précipite à obéir, car tu m'as sauvé. Je marche à ta suite. Et j'ai confiance dans l'avenir, Seigneur. J'ai confiance dans l'éternité, mais j'ai confiance dans chaque jour qui m'est réservé, car tu règnes dans les cieux, car toute victoire t'a été accordée. Seigneur, je ne craindrai pas la mort, je ne craindrai pas la maladie, je ne craindrai pas l'ennemi de mon âme. Je ne craindrai aucun homme. Je ne craindrai pas demain, Seigneur. Parce que mon roi règne dans les cieux. Seigneur Jésus, j'aimerais te prier pour tous ceux et celles ici qui n'ont pas plié le genou devant toi. Ils écoutent parler de toi comme on écoute parler de contes de fées, Seigneur. Ils écoutent parler de toi comme d'un homme sage de qui on peut s'inspirer. Ils entendent parler de toi et disent, « Ah, la résurrection, quelle folie! » Fais leur grâce, Seigneur. Viens te révéler à eux. Fais-leur voir le Fils dans toute sa gloire. Dis-leur que tu ne niaises pas avec le péché, Père. Dis-leur que tu les aimes jusqu'à donner ton Fils pour qu'ils soient pardonnés de leurs péchés. Dis-leur combien tu les aimes, Seigneur. Seigneur Jésus, je veux t'adorer, te bénir. Que ma vie soit une louange à tout ce que tu as fait pour nous. Viens, Seigneur, et règne sur ma vie, ô mon roi. C'est en Jésus que nous te prions. Amen.